Donc ce soir, nous accueillons Stéphane Lavignotte, que je vais vous présenter, dans le cadre de ces rencontres que nous faisons de temps en temps, qui s'appellent Société en débat. Donc j'en profite, avant d'entrer dans la matière de ce soir, pour vous dire qu'il y aura une autre réunion de ce type le 13 juin, avec Vincent Delecroix, qui a publié récemment, qui est professeur à l'école pratique des hautes études, et qui a publié un livre chez Desclée de Bouvert qui s'appelle « Apocalypse du politique ». Qui... Oui, il a publié au mois de novembre, je crois. Donc, bon, l'apocalypse n'était peut-être pas encore là, mais peut-être imminente. Écoutez, bon, on en parlera peut-être ce soir aussi.
Alors, je vais en parler en plus.
Oui, voilà. Alors, ce soir, nous avons Stéphane Lavignotte, qui est pasteur de la Mission populaire évangélique de France, qui a été journaliste, qui est un militant politique, je vais dire plutôt orientation écologique, et qui, aujourd'hui, mène une action à Gennevilliers de renouvellement de la présence de l'Église dans les milieux populaires et de la présence de l'Église et surtout de sa mission. Il a publié plusieurs livres, il se réclame entre autres de Jacques Ellul, mais aussi de bien d'autres intellectuels. Tu as écrit Jacques Ellul, L'espérance d'abord. Tu as écrit aussi un autre petit livre qui est très intéressant, qui s'appelle « Les religions sont-elles réactionnaires ?» ou bien aussi « Vivre égaux et différents ?» et un livre aussi qui m'a particulièrement intéressé, « La décroissance est-elle souhaitable ?» Tu as été directeur de la Maison Verte, je l'ai déjà dit, pendant de nombreuses années, qui est un lieu de mission, d'évangélisation, je pourrais dire, au sens le plus fort du terme, et dans l'accueil des plus démunis, des plus vulnérables de nos sociétés, que ce soit les gens atteints d'un handicap ou les gens exclus pour de nombreuses raisons. Alors ce soir, le thème c'est théologie politique, point d'interrogation, un défi nécessaire, une ardente obligation, ça montre toute l'ambiguïté du questionnement. La théologie politique, au fond, on peut dire qu'elle a mauvaise presse parce qu'elle nous rappelle soit le temps où l'Église et la cité étaient alliées pour dominer les plus fragiles, mais elle nous rappelle aussi ces messianismes utopiques qui ont aussi généré des violences brutales. Et si bien qu'aujourd'hui, on est, j'allais dire, c'est du bout des doigts, c'est avec des pincettes et du bout des lèvres qu'on ose employer ce terme de théologie politique. Or, à une époque où la sécularisation est venue atteindre toutes les valeurs, peut-être que la théologie, et peut-être c'est pour ça qu'on peut parler de défis nécessaires, peut-être que la théologie a quelque chose à dire dans l'espace public, et à redonner du sens à une vie commune qui le perd beaucoup, d'où peut-être une ardente obligation. Alors je n'en dirai pas plus, Stéphane va maintenant entrer dans le vif du sujet. Simplement, on est convenu qu'il parlerait environ 30 à 45 minutes, ensuite la parole vous sera donnée. Si elle ne vient pas facilement, je la provoquerai. Je me réserve peut-être le droit de lui poser deux ou trois questions, néanmoins, même si vous êtes aussi dynamique et créatif dans les questionnements. Voilà, je vous remercie d'être là. Et la parole est maintenant à Stéphane.
Hop là. Attention, c'est pour là. Merci. Je sais pas si ça marche, oui. Merci. Tu m'as bien présenté, donc je ne vais pas en dire plus. On en dira peut-être plus dans les discussions. On voit Tu as introduit déjà la question, la difficulté, ce thème, rapport entre théologie et politique, église et politique. Il y a effectivement trois risques, tu en as rappelé certains. Le premier, c'est un risque qu'on pourrait dire théocratique, alors que ce soit un risque théocratique conservateur quant à des régimes, comme on l'a vu par exemple, le régime franquiste par exemple en Espagne, ou salariste au Portugal, s'appuyer sur l'Église, une alliance de l'Église pour un pouvoir, sans dire théocratique comme au Moyen-Âge, ce sera un peu décalé, mais en tout cas, où on appuie une domination sur une position religieuse. Mais inversement, le risque théocratique, on peut l'avoir aussi dans certaines, tu disais, utopies meurtrières à gauche, c'est-à-dire au XIXe siècle, une partie du courant du christianisme social, qui est mon courant, j'étais président du mouvement du christianisme social, au XIXe siècle, il y a une certaine illusion qui est que le royaume de Dieu, ça pourrait être l'avènement du socialisme, pour le dire un peu vite. Et donc là, on a un deuxième risque théocratique qui confond, dans les deux cas, qui confond entièrement l'Église, la théologie, la religion et le pouvoir politique. Complètement à l'autre extrême, il y a le risque, au contraire, abstentionniste, c'est-à-dire l'Église est uniquement une affaire personnelle et religieuse, et elle n'a rien à voir avec la politique. Entre les deux, il y a un troisième risque, qu'on pourrait dire le risque de justification, c'est-à-dire justifier une position politique par par des opinions religieuses, sans vouloir pour autant avoir un pouvoir religieux. On a bien vu dans la campagne récente des candidats, enfin François Fillon en l'occurrence, qui plusieurs fois a justifié ses positions par son christianisme. Je ne m'attaquerai pas à la sécurité sociale, moi qui suis un chrétien et dont les parents étaient à Emmaüs, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Donc ces trois risques qui sont permanents pour tout chrétien, toute institution chrétienne ou religieuse qui voudrait s'engager sur le terrain politique, et cette question qui se pose pour les chrétiens se pose également pour d'autres religions. Alors l'Évangile nous permet sans doute de déplacer cette question-là pour essayer de la prendre différemment, en ce que c'est quelque chose qui est on nous raconte des histoires qui sont complètement à une autre époque, donc avec des références et un cadre différent, et en même temps, ou pourtant, se posent bien des questions de politique, de domination, de rapport de force, des espérances, des rêves, donc des choses qui ont rapport avec nous aujourd'hui. De ce point de vue-là, je pense qu'il est important de souligner que Jésus, par rapport au judaïsme de son temps, est dans une rupture avec un certain rapport au politique qui est dominant dans le judaïsme de son temps. On peut dire qu'on peut situer au moins deux tendances complètement opposées, et on peut retrouver finalement les trois tendances que je viens d'évoquer avant. Les Sadducéens, qui donc en gros sont les prêtres du temple, qui eux collaborent avec l'autorité romaine, donc sont vraiment très liés au pouvoir romain. Complètement à l'inverse, les Zélotes, qui sont une force minoritaire, révolutionnaire, plutôt nationaliste, qui veut renverser le pouvoir romain. D'une certaine manière, ils vont réussir à entraîner la société derrière elle, puisqu'on aura la révolte des Maccabées, qui va entraîner l'ensemble de la société israélienne contre l'Empire romain. Et puis, donc pour y substituer un pouvoir juif. Et entre les deux, finalement, les pharisiens sont dans une position un peu abstentionniste, où ils donnent l'importance au fait de démocratiser, effectivement, c'est pas comme ça que Jésus les présente, mais les grands rituels qui sont ceux uniquement des prêtres, les pharisiens pensent que tout le monde peut les pratiquer, c'est pour ça qu'ils insistent pour que tout le monde pratique toutes ces lois, et il y a la polémique avec Jésus autour de ça. En fait, les uns, comme les autres, ont des modèles, ont des positions différentes, mais ont le même modèle en tête. C'est celui de la royauté israélienne mythique, celle de David ou de Salomon, où le pouvoir est à la fois religieux et politique, et où le pouvoir est dirigé par un trio, le roi, le prêtre et le prophète, qui sont d'ailleurs des trios en tension très forte dans le cas des prophètes, puisque les prophètes se font régulièrement, leur critique est régulièrement perçue comme beaucoup trop sévère par le pouvoir, et en on voit bien comment certains se retrouvent à devoir fuir et être alimentés par les corbeaux au mont Horeb, par exemple. Alors, Jésus fait une rupture, me semble-t-il, ou une critique radicale de cet imaginaire du pouvoir juif et du coup de ses trois positions, en disant que lui, il n'est pas le roi des Juifs. Voilà. Et d'ailleurs, on voit bien au moment où il est justement crucifié, l'argument c'est « es-tu le roi des Juifs ?» On veut le remettre dans une position politique classique, ce qu'il refuse. En faisant ça, en fait, il fait rupture avec cette vision-là, la royauté israélienne mythique, et parce qu'il fait aussi rupture avec deux choses plus fondamentales, la vision de la loi. À l'époque, la loi religieuse, en même temps, la loi au sens où on l'entend aujourd'hui, elle règle aussi les comportements sociaux et la vie en collectivité. D'ailleurs, le principe de l'Empire romain et après des grands empires, type l'Empire ottoman, etc., ça sera de dire qu'il y a la loi de la... Il y a la loi de l'Empire, et puis une partie des lois, notamment les lois familiales et les lois sexuelles, sont déléguées aux communautés locales. Jésus met en crise cette vision de la loi. Alors il radicalise la loi pour la rendre absurde. Celui qui désire une femme du regard doit s'arracher l'œil. Et la respecter dans son absurdité oblige à finalement la dépasser, la transcender par un changement intérieur. Et donc on voit bien qu'avec cette vision de la loi n'est plus une loi sociale et la vie en collectivité, mais autre chose qu'un code pénal, c'est quelque chose qu'il faut dépasser pour un changement intérieur ou une métanoïa. Donc il déplace le sujet vers quelque chose qui est de l'ordre d'un changement plus radical, plus profond et plus personnel. La deuxième rupture, c'est que justement... il n'est pas le messie de la puissance qu'on attend pour renverser le pouvoir romain, ce qu'attendent particulièrement les zélotes. Il est un messie qui est venu pour rappeler la grâce de Dieu, la rendre effective dans la vie de chacun, abolir tous les liens qui nous enserrent dans les esclavages, faire tomber toutes les puissances, les dominations sociales, politiques et économiques qui nous tiennent prisonniers. Et là, il annonce vraiment... vraiment messager de grâce, donc c'est ce que j'ai un peu développé dimanche au culte à l'oratoire, c'est-à-dire cette grâce qui dit « ce qui vous enfermait est aujourd'hui aboli ». Et donc à travers ça, il renverse toutes les valeurs dominantes, les identités qui ordonnaient la société, qui maintenaient chacun dans sa boîte. C'est-à-dire que non seulement il annonce cette grâce qui libère les gens des boîtes et des emprisonnements dans lesquels il se sent limité, mais tout son ministère, c'est aller vers des gens vers qui on ne va pas, accueillir des gens qu'on n'accueille pas, manger avec des gens avec qui on ne mange pas, et donc troubler toutes les places pour lesquelles les gens sont ordonnés. Mais il le fait sur une stratégie qui n'est pas du tout une stratégie ni politique de prise de pouvoir, ni de renversement du pouvoir, comme les zélotes. Il ne renverse pas le pouvoir romain pour prendre le pouvoir à sa place. L'exercice du pouvoir est même une de ces tentations que Jésus refuse face au diable. Il nous dit que ce pouvoir, en fait, c'est un pouvoir relatif qui n'a plus de pouvoir définitif sur nos vies, alors qu'effectivement dans la pratique, eh bien, on voit bien leur pression, mais il nous dit finalement ça sera plus tard le thème de la Boétie sur la servitude volontaire, c'est vous qui donnez pouvoir à ces pouvoirs, et c'est parce que vous leur donnez crédit qu'ils ont ce pouvoir. Ça rejoindra plus tard toutes les dénonciations que font Jacques Ellul, mais qui a été fait par le Barthisme, beaucoup du pouvoir comme une idole. L'idole, c'est aussi quelque chose qui a du pouvoir parce qu'on lui en donne, parce que ce n'est pas le Dieu, mais on le considère comme un Dieu, et c'est pour ça qu'il a ce pouvoir. Cette vie selon les règles du royaume est déjà là, dans ce renversement, parce que Jésus est venu, mort et ressuscité. Mais en même temps, elle n'est pas encore advenue parce que le royaume n'est pas advenu lui-même. De ça, on peut donc en tirer, je pense, une première insistance, c'est qu'un pouvoir chrétien, ce qu'on appelait la chrétienté à l'époque de l'Empire d'Auguste, ou plus tard, j'ai parlé de Franco ou Salazar, pouvoir se revendiquant comme chrétien, ça n'a pas de sens par rapport au message des évangiles. Et on peut s'interroger, effectivement, est-ce que ça a du sens d'avoir des partis chrétiens? Alors, on pense au Parti démocrate chrétien de Christine Boutin, mais en Europe, par exemple aux Pays-Bas, vous avez un parti réformé, un parti calviniste, le parti de la Groenlinks, la gauche verte, qui a multiplié par 4 son score aux dernières législatives, est issu de la fusion de plusieurs organisations, où dedans il y avait des organisations maoïstes et extrême gauche, mais aussi plusieurs petits partis chrétiens de gauche. Et en Suisse, vous avez plusieurs partis chrétiens, y compris des partis chrétiens de gauche. En tout cas, il est clair que si l'objectif est d'exercer le pouvoir en tant que chrétien, on peut se dire qu'il y a un contresens par rapport au message des évangiles. En tout cas, il y a un contresens si on pense réellement exercer le pouvoir en chrétien. Là, je fais référence à Jacques Ellul qui dit que la position du chrétien est toujours relative, c'est-à-dire que il s'appuie plutôt sur une position barthienne, qui est de dire que la vérité, elle est uniquement c'est uniquement la vérité ou les dogmes, c'est uniquement Dieu qui les a. Et que ici, le monde est toujours marqué par la relativité et par l'inhérence des choses. Et que donc, si on peut essayer d'avoir des positions chrétiennes, on ne peut jamais dire qu'on a une position chrétienne dont on est sûr qu'elle est la bonne. Et donc, a fortiori, un pouvoir qui voudrait exercer en chrétien, s'il dit ce que je fais est chrétien, il rompt avec cette vision position, une vision relative de ce qu'on peut faire ici. Au mieux, quand ce pouvoir, quand les chrétiens exercent un pouvoir, ils doivent le voir comme un service et non un pouvoir. Et certes, on peut penser que des personnes, y compris chrétiennes, il est nécessaire qu'elles s'engagent, parce qu'effectivement, on n'est pas encore dans le royaume. Il faut bien régler cette société et avoir des gens qui s'en occupent. Mais alors le chemin effectivement est étroit, et on y reviendra d'autant plus dans ce qu'est l'exercice réel du pouvoir aujourd'hui. Alors si la place des chrétiens n'est pas... j'ai montré la difficulté d'un engagement chrétien en politique. Pour autant, moi je milite pour un devoir d'engagement dans le politique ou dans une politique. Alors, quel serait ce chemin d'engagement? D'abord, je pense que ça pose la question de ce qu'on met derrière le terme politique. La politique, je crois que ce n'est pas ce dont parlent les rubriques politiques des journaux et ce qui remplit l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire les bagarres internes professionnelles de la politique pour l'exercice du pouvoir, ce qui est ce qu'on appelle couramment la politique. En gros, on réduit la politique au jeu des partis, des organisations et la conquête du pouvoir. Là, je m'appuierai sur un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, qui oppose deux sens du mot politique. Il y a d'un côté la politique, la police, P-O-L-I-S, donc il l'écrit avec un S, même si on pourrait l'écrire dans son, vous verrez, avec un C-E à la fin, de manière comme la police nationale, et puis ce qu'il appelle le politique. Alors, la police ou la politique, c'est la façon dont... dit-il, l'oligarchie qui gouverne maintient chacun à sa place et finalement fait la police en disant restez à votre place, circulez, il n'y a rien à voir. La police dit il n'y a qu'une politique, c'est celle de l'exercice du pouvoir, il n'y a que certaines personnes qui l'exercent, ceux qui ont des titres à l'exercer par la naissance, la richesse, les diplômes. On pourrait donner un exemple assez récent, si vous avez suivi la participation de Philippe Poutou, moi je ne l'ai pas vu, mais on l'a bien raconté, et puis ça s'est tellement passé comme ça à la dernière présidentielle, à l'émission de Ruquier, où en gros on lui a signifié mais qu'est-ce qu'un ouvrier qui ne parle pas selon les canons de la politique vient faire là? Il avait écrit un petit livre dans la même collection d'ailleurs qu'on lit sur la décroissance, qui s'appelait Un ouvrier, ça doit fermer sa gueule. Et où il expliquait un peu le mépris social dont il était l'objet dans toutes ses interventions. Et ça, c'est, à mon avis, un exemple de cette façon de qu'a la police de dire, il y a des gens qui sont faits pour ça, et il y a des places, surtout, ne bougez pas ça. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, comme figure anti-système qui est censée tout bousculer. On a quelqu'un comme Emmanuel Macron qui en même a un parcours, finalement, outre son passage dans la banque, qui est presque le truc le plus original, mais il a un parcours très classique, ENA, inspecteur des finances, issu d'une bonne famille, pas une famille de la grande bourgeoisie, mais d'un médecin spécialiste, etc. Donc voilà, quelqu'un qui était fait pour faire de la politique, ça tombe bien, il en fait, et quand le système fait émerger quelqu'un qui serait celui qui bouscule le système, c'est encore quelqu'un qui est assez classique, finalement, du personnel politique. Alors, qu'est-ce que ce serait si c'est pas ça, la politique ? Eh bien, pour Jacques Rancière, le politique, c'est au contraire quand des personnes, des groupes, contestent ce partage entre « ça, c'est de la politique » et ça, ce n'est pas de la politique. Quand il bouscule le partage entre il n'y a que nous qui sommes légitimes, ou au contraire, et quand d'autres disent ben non, nous on l'est aussi. Des groupes, quand on bouscule le partage entre chacun est à sa place, et des gens qui disent ben non, nous revendiquons une place. Là, je fais référence encore à Jacques Ellul, où non seulement la question de qui fait de la politique, c'est celle des personnels. Élu qu'il exerce en professionnel, mais il lui souligne que ce pouvoir lui-même est un pouvoir un peu illusoire. De son expérience dans l'après-guerre comme conseiller municipal à Bordeaux, ce qu'il tire comme expérience, c'est que ben, lui qui est issu de la résistance, il arrive à rien faire parce que il y a tous les services de la ville, les techniciens, qui disent « bah non, on peut pas faire ça ». Et si vous discutez avec des élus qui... Moi, ma femme est élue, et quand ils sont arrivés, quand ils étaient élus à Paris, quand je dis « ils » parce que c'était la liste, ils ont eu tout de suite des gens qui proposaient des choses, « ah non, c'est pas possible ». Et rien n'était possible. Et donc leur parti pris a été dit « ok, expliquez-moi pourquoi ». Et à force de « pourquoi », en général, ils arrivaient à bousculer les choses. Mais la question de chaque chose est à sa place, ne se pose pas seulement pour les personnels politiques, mais pour la structure du système politique, et notamment pour, dans sa dimension technicienne, pour reprendre les termes de Jacques Ellul. De ce point de vue-là, puisque la politique pour Rancière, c'est ce qui bouscule tout ce partage, moi j'y verrai un écho aussi avec un autre point de vue élulien, qui est celui que justement le rôle des chrétiens dans ces systèmes-là qui sont clos où est tout le monde à sa place, c'est de porter la contradiction au cœur même de ce système-là, c'est d'essayer de faire brèche dans le huis clos. Alors, on pourrait discuter de savoir si on arrive à faire brèche depuis l'intérieur du système. Mon expérience de militant politique et d'élu, de mari d'élu, me fait être très, très réservé sur cette capacité-là. En tout cas, le faire seul, sans une dynamique collective derrière, ça me semble très difficile. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'intervenir par rapport au jeu politique qui serait aussi plus capable de mener cette contradiction, qui serait plus la place des chrétiens ? Donc la question, c'est de qui fait les choses, mais aussi, je reviens vraiment sur cette idée de Rancière, que c'est aussi sur l'idée de ça, c'est de la politique, et ça n'en est pas. C'est-à-dire qu'en permanence, on veut dépolitiser un certain nombre de choses qui se passent, alors qu'elles sont réellement sans doute de la du politique, parce que justement, elles jouent beaucoup plus le rôle de bouger les places et faire prendre la parole à des gens qui ne la prennent pas, faire prendre du pouvoir à des gens qui n'en prennent pas, que la politique classique. Il me semble que, par exemple, ce qui s'est passé à Nuit Debout, y compris dans le fait que ça n'a absolument rien donné derrière, toutes les manifestations qu'on a connues, notamment en banlieue, et il y a eu beaucoup de manifestations assez dures devant les lycées de banlieue ces dernières semaines, dont les médias ont très peu parlé, suite aux violences policières pour Théo et Adama. Une occupation d'usine par des ouvriers, une occupation d'école par des parents, d'un temple par des sans-papiers, des vélos en cortège qui contestent les déjeuners de la voiture, vous devez le voir passer souvent sur le boulevard Rivoli, les interpellations des associations contre telle ou telle mesure d'État, ce que font par exemple la CIMADE, les églises, etc. Ben, pour moi, ce n'est pas moins de la politique, ce n'est pas moins du politique. Et Jacques Rancière dirait même que c'est d'abord cela la politique. D'une certaine manière, tout ce qui conteste dans la société l'ordonnancement des places, des pouvoirs, des richesses, des légitimités, c'est ça qui est d'abord, de mon point de vue, du politique. Et justement, on parlait du terme de théologie politique, les théologies politiques, celles de Jürgen Moltmann, de Jean-Baptiste de Metz, d'autres auteurs, ont insisté sur cette dimension de déplacement en l'ouvrant justement, je parlais de l'Apocalypse, alors je ne sais pas si c'est ça dont il évoquera votre intervenant, mais on sait que l'Apocalypse, c'est quelque chose qui permet un temps spécial. Alors l'Apocalypse, on l'entend souvent de manière courante comme la fin des temps, la catastrophe, etc. Mais c'est bien sûr pas ça du tout, c'est l'idée qu'il y a un temps de la fin dans lequel il y a un dévoilement des réalités, et que dans cette dynamique où Jésus est mort et ressuscité, il va revenir, il n'est pas encore revenu, s'ouvre un temps spécial, un temps d'une qualité spéciale, un temps qui reste, avait titré Hagen Ben, qui est un philosophe, un temps spécial dans lequel il peut se passer des choses justement spéciales de l'ordre du bousculement des ordres. Et c'est là-dedans, sans doute, que l'Église a, parce qu'elle porte le message de Jésus qui est justement éminemment contestation de toutes les places, de tous les ordonnancements, de la place de chacun dans la société, de remise en cause des lois, eh bien, elle peut particulièrement avoir quelque chose à dire. Les chrétiens et l'Église ont particulièrement des choses à dire. Alors, qu'est-ce que les Églises ont à dire ou à faire? Ça demande peut-être déjà de se poser une question. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme Église? Alors, je n'ai pas pris une définition particulièrement radicale ou originale de l'Église. Je suis allé chercher dans le catéchisme d'Antoine Nouis, qui est un ouvrage que je conseille à beaucoup de gens pour commencer, que j'aime assez. Et il définit l'Église par trois façons. L'Église est communauté et communion, elle est prédication et elle est confession de foi. Alors, à travers ces trois lieux finalement assez classiques de l'Église, je pense qu'il y a dans cette vision de l'Église place pour une lecture qui permette d'avoir un rôle et un rôle de changement et de subversion. L'Église est communauté et communion. Antoine Nouis dit que c'est une communion dans laquelle la pauvreté est une richesse, le petit est prioritaire, les responsabilités sont des services. Rien que dans ces trois éléments-là, on voit bien ce que ça peut avoir effectivement de remise en cause de la politique telle qu'elle fonctionne. La pauvreté est une richesse. Bon, il suffit de regarder dans l'actualité récente combien le rapport de la politique à l'argent, des politiques à l'argent, est problématique. Il est problématique dans le sens y compris parce que même quand vous êtes élu simplement au Conseil de Paris, comme c'était le cas de mon épouse, vous vous retrouvez à gagner rapidement le double, trois fois ce que vous gagnez d'habitude. Et ça induit des modes de consommation, un rapport aux autres qui n'est pas si évident. Moi, je me souviens quand j'étais militant au Vert, d'avoir été dit mon étonnement quand la Direction nationale des Verts était passée d'un. À l'époque, c'était en francs, de 10 000 euros pour un plein temps de dirigeant à 10 000 euros pour un mi-temps. Voilà. Et à l'époque, 10 000 euros, on était en les années 90, 95, c'était un bon salaire. Quoi. C'était un bon salaire de démarrage. 10 000 francs. Voilà. Et j'avais discuté avec le secrétaire national de l'époque. Il m'avait dit, mais tu comprends, Stéphane, moi je vais discuter avec des ministres, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ne vont pas me respecter s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Les ministres avaient beaucoup plus, nettement plus. Mais c'est étonnant comme raison, parce qu'en plus, il avait vraiment beaucoup moins. Mais il y avait cette idée-là. Donc la pauvreté est une richesse. Et puis dans le discours de la politique dominante, on voit bien qu'on est dans. Vous avez vu le débat, mine de rien, on repart sur le discours, le débat sur la croissance. Donc la richesse de la société serait l'augmentation permanente de la production matérielle, de la richesse matérielle. Bon, après, se pose bien sûr la question de redistribution. Mais ça, voilà, ça serait encore la croissance. Le petit est prioritaire. Les responsabilités sont des services. Il n'est pas besoin de développer beaucoup pour voir combien ces façons de vivre en Église sont subversives dans le monde où la course à la croissance, à l'argent, sont considérées comme les vraies richesses. Donc, comment l'Église le vit, doit vivre ces choses-là, et faire vivre ces exigences en communauté, et comment elle le fait, non pas en se cachant, mais au contraire le montrer, à l'amour que vous vous portez les uns les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. En 1948, quand Élu publie « Présence au monde moderne », il développe sur la fin de l'ouvrage l'idée des styles de vie. Il dit, voilà, est-ce que les chrétiens peuvent développer des styles de vie en tant que communauté, qui soient des styles de vie en tant que communion, communauté subversive par rapport à la société, qui subversit les valeurs de la majorité, change les cœurs par son mode de vie contestataire. Alors, bon, c'est après différent. On sait bien que les communautés sont des communautés humaines, avec donc leurs limites de communauté humaine, et que parfois, on a du mal, dans nos modes de fonctionnement, à être tout simplement, des fois, dans l'amour de l'autre, que donc peut-être que c'est une barre un peu haute, mais toujours une recherche. Et aujourd'hui, des courants, mais tu parlais, toi, tu as travaillé sur la radicale orthodoxie, ou il y a toujours de nouvelles théologies politiques qui insistent sur cette Église comme minorité subversive, installant un mode de vie. Et donc l'Église, parce que communauté et communion, peut être politique des modes de vie. Deuxième caractéristique, l'Église est prédication au sens où pour nous, au sens de nous, de l'annonce de la parole comme de l'administration des sacrements. Là aussi, ça peut avoir une dimension politique. Rappelons-nous ce que nous disions au début sur le fond de la prédication de Jésus, l'abolition par Jésus de tous les liens qui nous enserrent dans les esclavages, la chute des dominations sociales, politiques et économiques, l'amour des ennemis, l'abolition des identités. Et Jésus ne le prêchait pas dans le retrait de la synagogue, qui d'ailleurs était un lieu public. C'était autant lieu public pour les Juifs que le forum pour les Romains. Donc la prédication dans un temple était une prédication publique. Quand nous prêchons dimanche matin, nous sommes obligés par la loi de tenir ouvertes les portes. Et le terme qui est le plus présent dans le 1905 à propos des églises, c'est le terme public. Et c'est Laurent Gagnebin qui aime à citer que la liturgie, c'est littéralement le service public. Et donc voilà, cette dimension publique de la prédication. Et puis il le faisait dans la rue, dans la vie, en public pour toutes les oreilles. Et là, je citerai pour moi un théologien qui est pour moi important, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui dit que justement la vie chrétienne et l'intervention de Dieu, c'est ni dans l'intime ou pas seulement dans l'intime, ni dans l'eschatologie et dans les nuées, mais c'est la réalité. Dans la réalité au cœur de ce monde, y compris dans les dimensions les plus fortes et les plus dramatiques que ça peut avoir. La prédication n'est pas que parole, elle est aussi action concrète et sacrement. Alors, pour citer aussi la radicale orthodoxie, c'est William Cavanaugh. C'est Cavanaugh ou c'est, oui. Oui, c'est Cavanaugh, oui. Qui, quand il était en Argentine, par exemple, ils allaient faire des eucharisties au Chili, des eucharisties devant des endroits où, vous savez, des gens étaient torturés, et donc ils faisaient l'eucharistie, et en même temps une pancarte, ici, avant qu'il y avait, la croix avec le Christ en croix, ils disaient, ici on torture un homme. Voilà, et donc c'est une eucharistie qui a valeur, qui a en même temps une action politique, voilà, et puis notre action sociale, le diaconat, l'engagement pour des politiques solidaires que font nos associations, la Fédération des Traites Protestantes, le travail qu'on peut faire nous à l'émission populaire, le travail du syndicalisme de quartier qu'on peut faire aux Agnettes, c'est une façon d'une prédication en action. Le cœur de la quand on présente la mission, dans les documents de la mission populaire, dans la charte, l'action de la mission populaire a pour but de vivre et manifester l'évangile en milieu populaire, c'est-à-dire que le manifester l'évangile, c'est par des actes rendre visible ce qu'est le cœur de l'évangile. C'est aussi dans cette prédication le rôle de l'éthique, l'éthique qui, dans lequel des personnages comme André Dumas, qui est le sujet de ma thèse de doctorat, ont joué un rôle important dans l'émergence de l'éthique en France. Et là, c'est le fait de prendre le risque de prendre des positions dans des situations difficiles, de ne pas se laver les mains face aux situations. Pour éventuellement, je vous citerai éventuellement le texte qu'il écrit au moment de la loi de 1974 sur l'avortement, où il dit voilà, là il y a une situation dramatique, nous pourrions nous replier sur notre avantin et ne rien faire, mais non, nous avons le devoir de prendre position dans cette situation-là, et il le fait parce qu'il est instruit par les militantes de jeunes femmes qui ont été créatrices du planning familial, sont de médecins protestants et francs-maçons qui sont engagés dans, y compris, l'avortement clandestin. Donc c'est vraiment une prise de risque pour ensuite réfléchir à une position qui est une position, y compris dans l'éthique, où on ne se contente pas de se dire « Ah, mais là, j'ai une position qui est juste, qui est ric-rac par rapport à mes dogmes. » Mais non, je prends le risque d'une position qui peut-être est dans des niveaux de gris, qui est une position qui peut paraître modérée, mais qui répond réellement aux problèmes qui se posent, qui répond réellement aux détresses réelles. Enfin, l'Église se définit aussi par sa confession de foi. Alors là, on est sur des cas plus extrêmes, au moment où, au nom de sa foi, l'Église peut rentrer en opposition frontale et en désobéissance face au pouvoir politique, et ça devient une action politique. Quand le pouvoir dit que Hitler est le guide, le Führer, ben, la confession de Barmen dit non, notre seul chef, notre seul guide, c'est le Christ. Quand le pouvoir ou quand des hommes politiques disent que la France est blanche et chrétienne, l'Église dit que non, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. L'Église, comme confession de foi, est alors plutôt une politique de résistance, d'action collective, mais sans arriver sur des cas extrêmes comme ceux de Barmen. Il y a des choses qui sont, de mon point de vue, des petites confessions de foi et de petits actes de résistance. Là encore, je citerai Ellul dans ce qu'il écrit sur l'argent, où il a une position très tranchée. Il dit voilà, l'argent c'est mammon, Dieu c'est Dieu, et donc on ne peut pas servir de maître. Et donc, de toute façon, vous avez toujours de l'argent dans vos poches, donc voilà, c'est fichu. Votre seule chance, c'est de profaner l'argent, de profaner cette idole. Et il lui dit, ben, le don, le fait de donner est une manière de profaner l'argent, parce que l'argent, dans son mécanisme, est quelque chose qui se compte et qui rend toute chose comptable. On veut compter combien les assurances comptent, combien vaut une vie. On va savoir, essayer de savoir combien vaut la destruction d'un paysage. Tout est mis en comptage par la logique de l'argent. Et donc, donner, c'est rompre avec cette vision-là. Et il dit, c'est une manière de profaner l'argent. Donc, d'une certaine manière, ce petit geste du don qui est fait le dimanche matin au culte, dont on ne sait jamais trop quoi en faire, hein, en fait, il faudrait peut-être lui donner un rôle beaucoup plus de sens de résistance et de profanation de la logique de l'argent par une logique de don. Alors, dans le concret de l'Église, je pense que j'ai donné peut-être déjà un certain nombre d'exemples concrets, mais voilà, comment vit cet engagement ? Qu'est-ce que l'Église ? Alors, quand je dis l'Église, effectivement, c'est les paroisses locales, c'est l'Église protestante unie, c'est l'Église catholique romaine, mais c'est aussi, en même temps, c'est l'Oratoire du Louvre, c'est la Fraternité de Gennevilliers, mais c'est en même temps tous les lieux qui sont, on peut dire, des lieux d'Église, des gens ou des chrétiens font vivre la CIMAD, font vivre un centre social, font vivre un accompagnement des prisonniers, etc. Alors, font vivre parfois sur des modes euphémisés, laïcisés, mais peuvent aussi réinventer cette communion, cette prédication et cette confession de foi. Et si l'Église essaie de tenir les trois ensemble, bah, chaque lieu vivra différemment cette tension entre la communion, la prédication et la confession de foi. Et il en découlera des manières différentes de s'engager en politique. Et je crois que c'est l'ensemble de ces positions diverses, des lieux et institutions d'Église, qui fait l'engagement de l'Église en politique, y compris de manière cacophonique. Je préfère m'arrêter là, et puis du coup, on peut continuer dans la discussion.
Merci bien, on te remercie.
Alors, petite question.
J'ai pas le temps. Très bien.
Tu as parlé du politique, mais je n'étais pas entendu parler du théologique. Donc, je pense personnellement que la spiritualité politique, le christianisme social, l'engagement chrétien me semble essentiel dans une fidélité à l'Évangile. La théologie, c'est autre chose. Et toute théologie me pose problème. Alors j'aimerais bien que tu me dises un petit peu ce que tu entends.
Je veux bien que tu définisses tes théologies alors. Parce que...
Alors, dans ton rapport entre le théologique et le politique, parce que pour moi, le théologico-politique me fait extrêmement peur. Tu as fait référence historiquement à certains événements. Je pense à ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Au rôle de l'Église et du théologique par rapport au soutien de Poutine. Et inversement, je pense à Don Diaz Camara et je pense à ce qui s'est passé dans la théologie de la libération. Le théologique peut être interprété, récupéré, utilisé par les barbus orthodoxes, de mon point de vue, de façon monstrueuse. La théologie de la libération m'a posé beaucoup moins de problèmes, mais elle posait un problème quelque part. Alors, j'aimerais bien que tu me dises ce que c'est qu'un peu la théologie, parce que n'importe qui peut récupérer de la théologie, y compris M. Fillon, qui soutient la famille, dans tous les sens du terme, et puis la manif pour tous, et puis la remise en cause de l'IVG, et puis les veilleurs, etc., et puis les manifs homophobes. Tout ce qu'on a vu défiler depuis un an dans ce pays, au nom d'une certaine forme de théologie.
Beaucoup se défient des théologiens barbus.
Je t'ai entendu beaucoup. Enfin, je t'ai entendu parler de politique. Mais je t'entends mal. J'ai mal entendu, c'est peut-être pour dire un peu con, mais j'ai mal entendu l'articulation entre théologique et politique.
Moi, j'aurais une définition très basique et très...
Juste une question de pratique. Est-ce que vous avez entendu, au fond, à peu près le...
Pas très bien.
Prenez le micro pour...
Donc, c'est important, parce que on parle tous ensemble.
Pourtant, j'avais l'impression de gueuler, non ?
Mais j'ai vu deux, trois visages qui disaient...
Prenez le micro.
Voilà. Mais vas-y, je t'en prie. Mais...
Alors, moi, j'ai une définition
très... La prochaine fois, on essaiera de...
J'ai une réflexion très basique et très Raphaël Picon de la théologie. C'est son livre « Tous théologiens ». Et la théologie, pour moi, c'est tout discours sur Dieu. Et tout discours qui découle d'une certaine vision de Dieu ou qui, en rapport avec un lien à Dieu, veut essayer de vivre les choses ici. À partir de là, pour moi, un théologien, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme de théologie. Toute personne qui a un discours sur Dieu est théologien. Y compris les fachos. C'est-à-dire qu'effectivement, n'importe qui peut récupérer la théologie. L'idée est bien, dans l'idée de façon, je rebondirai sur Ellul, c'est que justement, il y a une illusion à croire qu'on pourrait dire ça, c'est la théologie. Je pense que les protestants, on est bien placés pour remettre en cause un discours de vérité. Qui ferait qu'on pourrait penser que soit on a la vérité et que l'autre ne l'a pas. Et qu'après, là c'est peut-être une vision démocratique de la théologie, et après c'est le débat, c'est la lutte, c'est la bagarre, etc. C'est-à-dire que moi je ne dis pas que les fachos ou la manif pour tous, c'est une théologie qui est fausse. Je dis que ce n'est pas ma théologie, que je ne reconnais pas là-dedans, moi, la lecture que je fais de l'Évangile. Et au moment de la manif pour tous, il y a des chrétiens qui sont constitués en collectif croyants pour l'égalité. Il y avait des musulmans, des juifs, des chrétiens, pour dire, nous, notre vision de l'évangile, notre vision de Dieu nous fait être pour, et on est en bagarre avec des gens qui, au nom de leur vision, sont contre. Donc voilà, c'est pas... et ça, je rejoindrai vraiment la vision d'Hélule qui est, il faut admettre le relatif. C'est-à-dire que le chrétien, il est dans une position où il essaye de dire quelque chose, mais il ne peut pas penser que c'est lui qui a la bonne théologie. Après, c'est le résultat. C'est
malheur à nous, scribes et pharisiens hypocrites.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu dis, c'est pas ma théologie, c'est une autre.
Ben oui.
Je la respecte.
Je ne sais pas si je la respecte, je peux la combattre. Je dis que je la respecte, je ne sais pas.
Monsieur, c'est...
Est-ce que l'on peut faire rebondir le débat en se posant la question suivante? Est-ce qu'il y a autant d'interprétations et de discours sur Dieu qu'il y a de personnes? Et, ou bien, est-ce qu'il y a nécessairement dans la société émergence de mouvements, de sectes, de confessions, d'églises qui proposent des interprétations différentes? Je pense que dans votre petit livre, Les religions sont-elles réactionnaires, c'est le problème que vous posiez. Alors moi, je vous pose une question concernant votre définition de la société et comment vous concevez, à travers les mouvements que vous avez présentés de manière plus positive que certains autres mouvements, comment est-ce que vous construisez le vivre ensemble? Parce que c'est votre phrase. Dans la conception sociologique traditionnelle, depuis Durkheim, chacun est à sa place. Le fonctionnaire, l'agriculteur, l'employé de maison, le curé, bien sûr, le pasteur. Et tous ces gens-là font partie d'une mécanique où personne ne peut agir et qui pèse sur eux, qui aliène leur liberté. Et moi, je suis en train de lire un livre que j'ai beaucoup de mal à lire. C'est un livre de Bruno Latour qui me paraît extrêmement intéressant parce qu'il essaye de dire que la société devrait être autre chose que cette mécanique dont je parlais, mais un réseau de gens qui communiquent et qui reçoivent, qui communiquent et qui reçoivent. N'est-ce pas, d'une certaine manière, une conception un peu mystique de la politique? Si l'homme est un animal politique, hein, ça rappelle quelque chose, c'est pas pour rester bien sagement dans son coin.
Là, j'ai écrit un petit livre sur un auteur qui s'appelle Serge Moscovici, qui est un des fondateurs à la fois de la psychologie sociale en France et puis un des fondateurs de l'écologie politique. Et il a beaucoup travaillé sur le thème des minorités actives. Et pour reprendre votre question, justement, il dit la psychologie sociale, notamment américaine, c'était beaucoup concentré sur les mécanismes du conformisme, c'est-à-dire comment il y a un mécanisme de haut vers le bas pour que chacun reste à sa place et chacun reste à sa place et pour que la mécanique tourne avec le moins d'accrocs possible. Il dit le problème de cette vision-là, c'est qu'elle ne dit pas comment les sociétés changent. Si le conformisme était si écrasant, qu'est-ce qui fait que les sociétés changent dans le temps? Et donc lui, il a travaillé psychosociologie du changement social. Donc il dit que ce qui fait changer la société, ce qui l'a fait évoluer, c'est justement les minorités actives. Comment des groupes qui vont de 2 à 10, 15% de la population changent la société, changent les valeurs de la société, transforment les modes de vie, etc. Et écrit ça dans les années 70, où il observe ça avec le mouvement des femmes, avec le mouvement de la jeunesse, avec le mouvement écologiste, le mouvement LGBT, le mouvement homosexuel naissant, etc. Mais il l'a travaillé dans une usine de chapeaux dans l'Ain. Et puis il regarde dans l'histoire, et dans l'histoire, il va voir des différents moments, là, les premiers chrétiens et le christianisme jusqu'à ce qu'il devienne une religion d'État. Il dit, ben voilà, cette période-là, c'est une période où c'est une minorité active. Dans mon petit livre, Les religions sont-elles réactionnaires, souvent, je cite tout un tas de petits mouvements, notamment, enfin, petits pour certains importants, au Moyen-Âge, au moment de la Réforme. Enfin, certains sont très importants. La guerre des paysans, c'est au moment de Luther, c'est une révolte de masse. Le mouvement des Hussites en Tchécoslovaquie, enfin, je sais plus, Bohème-Moravie, se retrouve, c'est quand même des mouvements de masse aussi. Etc. Et c'est des mouvements qui, tout au long de l'histoire, sont des opérateurs de changement social et qui ont comme. Et qui ont un changement, justement, d'abord des changements culturels. C'est-à-dire que faire du politique. Ou une politique, c'est penser que c'est pas seulement la question du pouvoir, mais c'est effectivement changer la culture d'une société, c'est aussi un acte politique. Dans les années, je pense que l'apport important, par exemple, d'un théoricien du marxisme comme Gramsci, s'inspirant justement du calvinisme et du luthéranisme, c'est de dire un changement politique, c'est aussi un changement culturel. Et de ce point de vue-là, tous ces mouvements-là, mais tous les mouvements, ce qui se passe dans la musique ou dans la peinture ou dans le théâtre, sont aussi des choses importantes. Et là, ça rejoint peut-être ce que vous disiez sur plutôt qu'une mécanique, quelque chose comme communication et réception, parce que c'est des changements aussi de nos façons de percevoir les choses, de nos façons de sentir, une façon de voir des choses qu'on ne voyait pas, de redonner de l'importance à des choses qu'on ne voit pas. Puis je terminerai par ça. Moi, j'aime beaucoup, quand j'interviens sur la question de l'écologie et de la théologie, j'aime beaucoup citer un texte de Calvin dans l'Institution chrétienne, qui est un espèce de guide de l'usage des biens terrestres, c'est pas guide, je me souviens plus, mais traité de l'usage des biens terrestres, voilà, c'est beaucoup plus calviniste traité que guide, où justement, une des choses, c'est de dire, ben, il y a des fleurs, si Dieu leur a donné une jolie couleur et les a fait sentir bon, c'est qu'il faut que vous les renifliez, profitez des fleurs et renifliez les fleurs. Alors, en plus, chez Calvin, on n'imagine pas qu'il invite les gens à avoir ce genre de petits plaisirs, mais je pense que c'est inviter à un changement de perception. Par exemple, par rapport à la nature, par rapport à la perception qu'on avait de la nature à son époque. Ça, je pense que c'est des changements culturels qui sont aussi des changements politiques.
Si je peux me permettre, je crois que c'est là que la théologie et la prédication de l'Église est fondamentale, parce que ça se situe au niveau de la parole. Je veux dire, tu citais Gramsci. Oui. Et par exemple, aujourd'hui, la situation que nous connaissons en France avec la montée du Front National. Le problème, ce n'est pas tellement le nombre de voix que va faire le Front National aux élections présidentielles. Le problème, c'est la diffusion des idées, l'imprégnation. C'est là que l'Église a tout un travail de dénégation, de rompre le huis clos, comme on disait, où il y a aujourd'hui un consensus non dit sur un certain nombre de valeurs qui vont déboucher sur une certaine victoire ou petite défaite du Front National. Mais par ailleurs, il y a une culture que le Front National a inculquée à une très grande majorité maintenant de nos concitoyens. Et c'est là que l'Église a tout son... Alors c'est aussi vrai, tu disais, pour la nature, l'écologie, la croissance. C'est là-dessus, je crois, que la théologie a une parole forte de résistance à... Voilà, je ne dis pas plus.
Une petite chose, c'est que je disais parler de l'Église comme communauté, qu'en tant que communauté, elle pouvait faire de la politique. Quand dans nos églises, enfin, aujourd'hui, où sont les endroits où des gens différents se rencontrent? Au supermarché, mais ils se croisent. Dans les écoles, quand les jeux de la carte scolaire et de l'échappement de la carte scolaire ne fait pas que les gens se séparent. Et puis, dans les églises. C'est-à-dire que des endroits où des blancs d'un certain milieu social peuvent rencontrer des femmes de ménage africaines, bah, c'est dans les églises, c'est pas ailleurs. Et est-ce qu'on arrive à faire qu'il y ait réellement rencontre et que par ces rencontres, on puisse aussi briser un certain nombre d'imaginaires ou de clichés qu'on a sur les autres.
Foucault.
Excusez-moi. Vous allez avoir une voix qui porte.
Je peux essayer.
Bon, merci.
Je voudrais revenir sur l'articulation entre le théologique et le politique selon Hegel. Ce que j'ai retenu, moi, de Hegel, c'est que l'articulation entre les deux serait plutôt du côté de l'éthique, c'est-à-dire du côté des principes dans lesquels on agit, que du côté du programmatique, c'est-à-dire du projet politique dans lequel on s'engage. L'exemple que tu as cité tout à l'heure, c'est très fort, de ces chrétiens qui célèbrent l'Eucharistie devant les murs d'une prison en montrant explicitement le lien qu'il faut entre l'Eucharistie, la passion du Christ et ce qui se passe derrière les murs. C'est un témoignage très fort et c'est effectivement une action politique, mais qui n'est pas elle-même porteuse d'un programme, d'un projet qui est essentiellement une action dictée par une nécessité morale de rester fidèle à l'enseignement et aux promesses de l'Évangile. Et il me semble que Élu ne se définissait pas comme un protestant libéral, tout le contraire.
Non. C'était un Barthien pur et dur.
Il considérait par exemple que la morale, c'était un phénomène humain, proprement humain, et qu'il ne fallait pas s'étonner que la morale soit relative. Il était relativiste moralement, parce que, en gros, depuis la chute, depuis que l'homme prétend distinguer lui-même le bien du mal, eh bien, il est tout à fait logique qu'il essaye de forger une morale. Il est tout à fait logique qu'il y en ait plusieurs dans le monde, et que donc aucune civilisation ne peut prétendre parler au nom d'un universalisme moral, etc. Ce qu'on appelle le relativisme aujourd'hui. Je n'ai pas forcément très bonne presse. Mais lui disait que agir chrétiennement, ce n'était pas ça. C'était au-delà de ça, même si bien entendu, en tant que citoyen, en tant que membre d'une communauté, il était tout à fait impératif d'essayer d'agir selon ce qui paraissait moral à l'époque dans laquelle on vit. Mais au-dessus de ça, il s'agissait d'agir selon l'enseignement du Christ. Et pour lui, c'était ça, la clé. Agir. Non pas moralement, mais éthiquement, agir en chrétien, c'était agir selon les principes de l'Évangile. Bon. Et donc, dans l'exemple cité tout à l'heure, et dans les autres que tu as évoqués, c'est-à-dire toutes ces actions de personnes qui agissent, soit en tant que chrétien, soit en tant que laïc, mais finalement au nom des mêmes valeurs, toutes ces actions sont des opérateurs de changement, comme tu le disais, mais pas nécessairement au nom d'un projet, au nom d'un programme. De même que les réformateurs religieux n'étaient pas eux-mêmes, politiquement parlant, des progressistes. C'est presque sans l'avoir voulu que leur action a produit ce qu'elle a produit. Enfin, ma question, ce serait de demander si l'action politique proprement dite, c'est-à-dire l'action dans un parti politique, l'action dans le sens d'un projet politique, l'engagement comme élu, est-ce que ce n'est pas à la limite de ce qu'on peut s'autoriser comme chrétien, au nom de la religion, de la théologie. Est-ce que c'est pas ça que Élu lui-même a voulu dire lorsqu'il a parlé de son expérience à lui en tant que résistant, entrer dans la politique à la libération? Concernant la résistance, on peut dire la même chose que ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que agir dans la résistance, ce n'est pas nécessairement agir au nom d'un projet politique, mais agir par nécessité morale contre une situation absolument insupportable, et pour autre chose. Mais quand cette autre chose arrive, il n'est pas sûr qu'un type comme Élu avait encore sa place au conseil municipal ou à l'Assemblée nationale.
Je n'aurais pas forcément grand chose de plus à dire, je trouve que vous avez bien expliqué la position d'Élu. C'est vrai que c'est d'abord une position... de critique et de déconstruction, c'est-à-dire Bon, là, dans la vision hélulienne, donc il est barthien, ils sont très marqués, cette génération-là est très marquée par des pouvoirs politiques qui se sont posés comme des réalités quasi divines, que ce soit le totalitarisme soviétique, que ce soit le nazisme. Et il y a une inquiétude importante d'un État qui, appuyé sur la technique, appuyé sur par les masses médias, devienne un État total. Voilà. Donc il y a en permanence la volonté de la brèche, de faire tomber ces discours qui se présentent comme des discours de vérité. Et donc toujours effectivement affirmer la dimension relative de toute morale, de toute politique, de toute action humaine, et en permanence là où ça paraît fermé, évident, où tout le monde est d'accord, faire des brèches et obliger au débat, obliger à dire que les choses sont pas si évidentes. Donc c'est d'abord une opération de critique et de déconstruction et de dénonciation des idoles. Et lui dira un endroit que ça n'empêche pas de force, n'empêche pas de porter éventuellement des demandes précises, mais et lui dira dès qu'on l'a obtenu, on doit immédiatement repasser dans l'opposition et être critique, y compris par rapport aux effets de ce qu'on a immédiatement obtenu. Dans le cas des minorités actives, ce que montre par exemple Serge Moscovici, c'est que souvent les minorités actives sont porteuses de demandes précises, mais en général, c'est pas du tout sous la forme qu'elle l'avait demandé, que ça va se réaliser. Et que donc l'important est moins les demandes précises qu'elle porte que le fait qu'elles vont, par cette demande-là, par ces revendications un peu têtues, faire des changements plus profonds et qui sont effectivement des changements qui sont plus culturels, éthiques, presque épistémologiques. Moi, je donnerais dans l'exemple, par exemple, de ce qu'on fait, nous, à Gennevilliers, où c'est vrai qu'on part avec les habitants sur demande très précise. Voilà, avant de venir là, on faisait du porte-à-porte dans une des barres d'immeubles, rue du 8 mai 45, donc à Gennevilliers, et on a des choses très précises. Hein, l'ascenseur qui... je n'ai jamais rencontré dans un ascenseur aussi vieux dans une cité HLM. Les problèmes de chauffe-eau qui ne marchent pas, etc. Donc on va demander, on va aider les gens à porter des demandes précises. Quand on va arriver dans la négociation avec l'office HLM, les gens vont arriver avec des demandes. L'office HLM va dire oui, non, mais peut-être que non, parce qu'il y a ça qui rend ça pas possible. Et en fait, on n'est pas forcément à vouloir absolument. Enfin, on apprend aux habitants à pas forcément vouloir exactement ce qu'ils ont demandé, mais à rentrer dans une négociation qui permet de comprendre les intérêts de l'autre, ses propres intérêts, et à inventer soit une troisième solution. Ce qui se passe là, c'est qu'on passe d'un face-à-face à un côte-à-côte où on considère aussi l'autre. Il y a une dimension presque d'amour des ennemis. Et de manière plus importante que la revendication, ce qui est intéressant, c'est le cheminement qui a permis ça. C'est-à-dire que finalement, là, le fait d'obtenir qu'il y ait des chauffe-eau plus modernes, certes, ça va arranger ça va rendre la vie des gens un peu moins désagréable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est poursuivi d'abord, c'est que dans ce cheminement, les gens vont, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient isolés, ils vont s'apercevoir qu'ils sont dans une communauté, qu'avec leurs voisins, avec le quartier, ils forment une communauté, qu'alors qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de rien, ils se sentent capables, qu'alors qu'ils n'avaient pas confiance en eux, ils ont confiance, que là-dedans, ils vont acquérir des capacités pour négocier. Donc ce qui est important, c'est d'abord le changement que ça produit sur les personnes et sur la communauté, bien plus finalement que le fait qu'on obtienne à la fin... qu'il y ait des chauffe-eau. Et c'est effectivement pour pas construire pour autant une communauté qui serait autosuffisante et qui deviendrait une identité close. Parce que l'enjeu dans la construction des collectifs d'habitants, c'est de toujours faire rentrer les gens qui sont a priori pas dans le collectif, quoi. C'est-à-dire que là, dans une autre barre à Victor Hugo, un des gros problèmes qui remonte des gens de porte à porte, c'est, il y a des jeunes qui sont derrière, qui trafiquent, qui font du bruit, qui font de la mobilette, etc. Bon, c'est des jeunes de l'immeuble. Donc, le truc facile, ça serait de dire, on s'appuie sur tout, en gros, sur le plus gros des habitants, et puis là, on n'aura pas trop de problèmes à avoir une intervention de la police pour qu'ils dégagent les jeunes. Ah oui, mais les jeunes, c'est aussi des habitants. Donc comment, à un moment, on arrive à construire un collectif qui soit les jeunes et les gens qui râlent sur les jeunes pour inventer un truc ensemble. Donc en permanence, on réouvre les communautés. Donc il y a une dimension un peu aussi là, je dirais, critique, qui évite de transformer en... L'important, effectivement, c'est pas le programme, comme vous disiez, c'est le cheminement qui permet ça, et quelle transformation des collectifs à travers le fait qu'on construit un programme et qu'on veut poursuivre un programme. Mais finalement, l'apparence c'est le programme, la réalité c'est qu'est-ce que ça permet.
Avec un risque tout de même, dont il faut être conscient, c'est que vous risquiez de devenir un intermédiaire entre l'office public d'HLM ou le pouvoir politique et les gens qui ont des problèmes de vie à résoudre, alors que intermédiaire et non médiateur. Je ferai la différence entre les deux termes. C'est-à-dire faire circuler des prises de position qui seraient naturellement et mécaniquement antagonistes et leur substituer un autre type de rapport collectif. Dans le collectif.
Il y a ce risque-là. Le risque, c'est qu'on soit une association de permanents qui parle au nom des habitants. Justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des façons de faire et des méthodologies pour éviter ça. C'est-à-dire que dans le travail social, le risque toujours, c'est de faire pour. On essaye toujours de faire avec. C'est pas toujours très facile. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pour, on ne fait pas avec, on fait faire. Dans tout le processus, par exemple, ça démarre par le fait que dans les porte-à-porte, on dit non seulement aux gens c'est quoi vos problèmes, on leur dit c'est quoi vos solutions. C'est-à-dire qu'on passe à un moment, alors d'accord, mais là, sur ce problème, les jeunes qui sont derrière, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution ? Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution ? C'est-à-dire leur faire eux-mêmes trouver des solutions. Et c'est assez fascinant, des fois, sur des problèmes hyper techniques, à force de voir plein de gens, on tombe toujours sur des gens qui ont travaillé dans les ascenseurs, dans ceci, dans cela, et qui amènent effectivement des solutions. Mais à toutes les étapes, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on fait une réunion, c'est avec une assemblée, ben c'est des petites tables où c'est les gens qui ont une grille et c'est eux-mêmes qui ont cherché quel est le problème, quelles sont les solutions qu'on cherche, à qui il faut s'adresser et quelle action pour le faire. Quand on va aller négocier, quand on va trouver une action, c'est eux qui vont trouver l'action. C'est-à-dire que nous, on pose surtout des questions en fait dans notre façon d'animer les réunions. C'est-à-dire qu'on va, on va toujours dire mais on pourrait faire quoi et comment et pourquoi, etc. Et on fait finalement accoucher, faire que ce soit les gens qui accouchent de leurs solutions. Et quand on va faire des négociations, c'est les habitants qui négocient. C'est-à-dire que moi, je les accompagne, mais c'est les habitants qui négocient. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est vachement plus efficace, parce que le problème, c'est que moi, je n'habite pas le lieu. Et donc, c'est très facile pour la personne en face de dire oui, mais voilà. À la limite, je sors de paratonnerre pendant la négociation. C'est pas toujours confortable. Mais effectivement, quand c'est les habitants qui reprennent la parole, ils sont beaucoup plus forts dans leur discussion. Et pour relier au thème d'avant, je pense que là, on est dans le politique au sens de Rancière, au sens où moi, je vois l'exercer Jésus dans les évangiles, c'est qu'on on bouge les places. C'est-à-dire que les experts des ascenseurs, ben, c'est pas la société d'ascenseurs, c'est les habitants qui vivent dans les immeubles qui ont des ascenseurs, et dans le collectif des habitants, ben c'est incroyable le nombre de gens qui travaillent dans les ascenseurs et qui du coup passent des informations aux habitants, et du coup on peut dire que ben là sur ce problème là, c'est que cette société là ben on a appris que elle est dans les flux tendus, et que s'il faut 3 semaines pour avoir une pièce d'ascenseur, c'est qu'ils ont quasiment plus de stock, qu'ils vont faire, chaque fois qu'il y a un truc qui est en panne, ils vont faire fabriquer la pièce dans leur maison mère en Allemagne. Et donc, ça prend un peu plus de temps. Ça, on l'a appris en discutant avec les habitants. Et donc, ça déplace les places, parce que si les habitants deviennent des experts, alors qu'on leur disait qu'ils ne savaient pas, C'est, on leur disait qu'il fallait déléguer justement soit à l'association de locataires, soit aux politiques. Et ben non, c'est eux qui viennent le dire directement. C'est selon des formes où les gens s'y attendent pas. Parce que quand on interpelle le maire pour être sûr qu'il nous voit, ben c'est au moment où il est en train d'inaugurer un jardin, il ne l'avait pas prévu. Et c'est une forme humoristique. Donc ça déplace aussi par rapport aux choses habituelles. Ça évite un face-à-face trop dur, ça évite de faire, d'être dans une logique où on fait perdre la face à l'adversaire. C'est une logique plus non violente, mais c'est aussi sur un mode où, eh ben ouais, faire un truc qui est un peu rigolo, ben oui, c'est aussi de la politique.
Si tu peux parler un peu plus fort.
J'aurais voulu vous demander, Stéphane, si ça va aller, je pense. Comment vous vous présentez ? Par exemple, je suis au 10e étage de la tour Machin Chouette. Est-ce que c'est Stéphane Lavignotte qui se présente? Quand vous parlez du porte-à-porte, il y a une équipe. Alors, bon, moi je suis là en train de préparer ma soupe, machin. Et puis d'un seul coup, ça sonne à ma porte. Et alors, c'est à quelle heure que ça se passe? C'est le midi, le matin? Il y a une méthodologie de porte-à-porte. Et alors après, comment, qui je suis? Comment on m'identifie? Et pourquoi on m'ouvre? C'est ça qui m'intéresserait.
On s'identifie en disant bonjour, on est une association du quartier, on vient voir les habitants pour discuter de leurs problèmes de vie quotidienne. Vos voisins nous ont parlé des chauffe-eau, des ascenseurs, etc. Et vous, c'est quoi les problèmes que vous voyez? C'est-à-dire qu'on n'entre pas, particulièrement par la présentation de qui on est, on entre par les problèmes des gens. C'est-à-dire que l'important, c'est d'aller tout de suite sur eux, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ensuite. Et ensuite, on déroule, c'est-à-dire que ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on veut montrer, c'est que c'est honnête parce que le centre de notre construction, c'est ce qui concerne les gens. C'est-à-dire que le centre de notre façon de faire, c'est qu'est-ce qui est l'intérêt, quels sont les problèmes des gens.
Est-ce qu'ils ont identifié que c'était une mission populaire?
Mais on le dit, on le présente dans la suite du déroulé. Moi, je suis pasteur. Je suis d'une église protestante qui fait d'habitude du travail social. Il n'y a pas de volonté de conversion. Notre objectif, c'est de faire avancer le mieux vivre, la justice, etc. Donc, on le cache pas. Et dans le document qu'on laisse, il y a une présentation qui dit la mission populaire, soutien une alliance citoyenne, etc. Donc, les gens, on a intérêt de toute façon à dire clairement qui on est, parce que si on le cache, ça crée de la suspicion, parce qu'il y a toujours des gens qui ne voient pas d'un très bon oeil notre action et qui vont utiliser ça pour dire ils vous ont caché, peut-être qu'ils étaient vraiment. Il y a un mois, on a eu un tract anonyme, bon, qui venait de la mairie, hein, qui disait attention aux dangereux agitateurs évangélistes qui manipulent les habitants de Gabriel Péri. Les habitants de Gabriel Péri se sont marrés parce qu'ils savent que je suis pasteur et qu'ils savent très bien comment on fonctionne et qu'ils savent très bien qu'on ne les manipule pas. Ils ont vu comment on travaillait et puis comment, surtout, les autres habitants travaillaient, parce que rapidement, ce n'est pas nous qui faisons les choses, puisque nous, c'est moi, c'est une personne de service civique, c'est rapidement les habitants qui font les choses.